Bonjour à vous, je vous propose de commencer tout de suite cette première rencontre de l'après-midi. Rencontre avec Éric Pessan. Certains d'entre vous ont pu l'entendre hier, malgré le froid et le vent, lire magnifiquement son dernier roman « Le démon avance toujours en ligne droite ». Donc Éric Pessan, vous l'avez compris, est écrivain, romancier, mais en fait il s'essaye avec bonheur dans des genres littéraires très variés. Il écrit des romans, mais aussi des essais, des livres pour la jeunesse, du théâtre, de la poésie, également des livres avec des artistes. Alors, concernant les romans, je rappellerai ses dernières publications. Il a publié en 2010, toujours chez Albin Michel, « Incident de personne ». En 2013, « Muette », qui nous plonge dans l'univers d'une jeune fugueuse, d'une jeune adolescente qui fugue, qui... au fond, est étrangère à elle-même ou à la vie qui lui est promise. Je citerai également qu'en compagnie de Nicole Caligaris, qui était venue ici il y a 2 ans, il a co-dirigé l'ouvrage collectif « Il me sera difficile de te voir », qui est une correspondance, un ensemble de correspondances littéraires sur les conséquences de la politique d'immigration française, ce qui a un rapport avec notre thème. Voilà. Et ce livre a été publié donc en octobre 2008 aux éditions Vendailleurs. Donc je rappelle le titre, « Il me sera difficile de venir te voir ». Donc son dernier livre dont vous avez entendu des passages hier soir est « Le démon avance toujours en ligne droite » qui est paru cette année en janvier, toujours chez le même éditeur. Ce qu'on pourrait dire particulièrement dans ce livre et aussi dans les derniers, c'est que la question de l'altérité, de l'étranger, alors de l'autre à soi et de soi à soi, est une question insistante dans ces livres d'Éric Pessan. Et on pourrait dire que le démon d'avance toujours en ligne droite a peut-être quelque chose à voir, du moins me semble-t-il, avec le daimon de Socrate. Ce daimon, ce démon de Socrate, qui est à la fois cette voix intérieure, mais aussi cette étrangeté en soi, d'une certaine manière, et ce roman me semble suggérer sensiblement ce rapport à soi et à l'autre que soi, en soi. Voilà.
Je vais essayer de vaguement tourner autour de ces questions sans réellement y répondre, en lisant le texte de ma conférence, que j'ai intitulé « Ce que je sais de toi » lorsque Dominique m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je vienne ici. J'en étais ravi. Et puis très vite, il m'a demandé le titre de ma conférence et très vite, je m'étais dit que je l'écrirais bien plus tard. Donc j'ai donné le premier titre qui m'est passé par la tête et ensuite j'ai essayé de tenir ce fil. C'est à peine une conférence, disons que c'est une promenade sur la thématique du banquet de cet été et à travers mes livres en 49 étapes. Ce que je sais de toi. Je te remercie d'être venu m'écouter, te parler de moi, de mes livres, de ce trouble que je ressens quand je pense à ce qui m'est étranger, comme quand je pense à autrui. Je te remercie d'autant plus sincèrement que j'ai eu beaucoup de mal à admettre que tu existes, que tu sois réel, mon cher Eanos, comme l'on dit, comme on lit dans les romans. 2. Enfant, je te l'avoue sans rougir, j'étais persuadé que tu n'étais pas vrai, ou au mieux que tu n'étais pas celui que tu prétendais être, comme un agent secret qui cache à tous la véritable nature de ses occupations. Je me revois jouant avec mes Legos, au sol, dans un coin du salon, j'espionnais les grands. Je vais écouter, et ce qui dégringolait jusqu'à moi me paraissait être une farce, la preuve d'une supercherie généralisée. Enfant, je n'ai jamais compris ce qu'étaient les autres. Je voyais les adultes, leurs préoccupations confuses, leurs grands cris, leurs engueulades, la façon dont ils changeaient de visage en fonction de leur interlocuteur, et je me disais que je comprendrais plus tard. Cette pensée-là m'effrayait et me rassurait en même temps. À la fois, j'avais envie de savoir un jour à quoi ressemble le monde des adultes et ce que sont les pensées des adultes, et à la fois, j'avais très peur de devenir comme eux, comme toi. Toujours, j'ai cru que les adultes me cachaient quelque chose. On me répétait que je comprendrais plus tard, que je verrais bien, que je réaliserais à quel point la vie n'est pas facile, à quel point la vie est compliquée. J'imaginais des grands secrets, des choses terribles que les enfants n'ont pas le droit de savoir, et qui concernent le bon fonctionnement de l'univers. Je pensais les énigmes gigantesques. Je ne savais pas qu'il ne concernait que des violences sordides, des vexeries anodines ou quelques adultères éventés. Et Phil, n'écoute pas, ce n'est pas de ton âge, ne traîne pas dans mes pattes. Va voir ailleurs si j'y suis. Ne reste pas là. Tout m'était étranger. Le patois parlé par mes grands-parents, la sieste du dimanche après le repas trop arrosé, l'amertume des femmes, le ton niais avec lequel on s'adressait à l'enfant que j'étais. J'espérais que le monde recèle de grands secrets parce que j'avais la trouille qui se limite à ce que j'en percevais. Ethnologue clandestin, caché dans le couloir ou sous la table, c'est en observant ma propre famille que j'ai compris qu'autrui demeurerait toujours un mystère. Il m'était étranger, tu m'es étranger. Jusqu'à la langue qui était contaminée. J'avais l'impression que mes adultes parlaient à demi-mot, que mes allusions toujours m'échappaient. C'est comme si les mots contenaient des doubles fonds, des tiroirs secrets. Je voyais les sourires, les connivences qui m'excluaient. Les adultes, croyais-je, codaient leurs propos pour que les enfants ne comprennent pas tout. De tout là-haut, où ils naissaient dans la bouche des adultes, les mots dégringolaient à mes oreilles, en ayant entre-temps perdu leurs plus subtiles nuances. Ils me parvenaient abâtardis, simplifiés à outrance. Je n'imaginais pas une seconde que les adultes ne fassent que parler de météo ou de frites trop salées, des derniers potins ou de ce que l'on joue à la télé ce soir. Je préférais concevoir la complexité d'un code secret plutôt que de m'avouer que les adultes n'ont rien à se dire, qu'ils clapotent dans leur médiocrité dès qu'ils ouvrent la bouche. Tu vois, pour parler de toi, je parle de moi. Comme pour parler de mes livres, je suis obligé de parler de moi. Pourtant, j'écris de la fiction. Je transpose, je déporte, je déplace. Partout où je passe, la question est immanquablement dans les premières que l'on me pose. Elle est parfois la première. Parfois, elle se fait désirer une ou deux minutes, mais elle arrive bien vite, en seconde ou troisième position. La question du vécu, je pourrais la jouer au tiercé, tu sais. À la longue, elle me rapportera un joli pactole. Les collégiens, les lycéens, les lecteurs, toi, vous tous, aimeriez savoir si mon roman est autobiographique, ou à défaut, du moins, inspiré de faits réels. C'est que, vois-tu, j'ai beau expliquer qu'il s'agit de fiction, il reste encore l'espoir chez ceux qui lisent mes livres que les faits puissent être avérés. Ma méthode, pourtant, j'en parle volontiers. Je n'écris que sur ce que je connais. J'ai situé des passages de mes livres à Nicosie, à Weimar, à Lisbonne ou dans le Piémont italien, parce que j'en sais les couleurs, les odeurs, les vibrations, parce que j'ai éprouvé des questions soulevées par ces villes ou ces paysages. Il ne me viendrait pas à l'esprit de parler d'Islamabad, puisque je n'ai jamais mis les pieds au Pakistan. Je pars de ma vie, de mes doutes, de mes interrogations. Je me nourris de mes lectures, de mes rencontres, du monde qui n'en finit plus de craquer alentour. J'explique qu'il me paraît impossible de forger un personnage trop éloigné de moi, puisque mes textes font quasiment l'impasse du personnage. Il me semble indécent de faire mon nid avec les brindilles de douleur d'un fait divers. Je me tiens à la lisière du véridique, mais je ne veux pas me priver de l'imagination. Je parle. Et les lecteurs gardent encore l'espoir que j'écrive du vrai, tant l'époque veut les convaincre de la supériorité du vécu sur l'inventé. Il faut, vois-tu, abolir la distance entre le lecteur et le sujet. La fiction est une muraille à abattre. L'invention, me diras-tu, c'est facile. J'ai beau rétorquer que Kafka a écrit l'arrivée en Amérique en pantoufles et robe de chambre sans jamais y avoir mis un pied, on me répond que c'était une autre époque. Maintenant, la littérature, le cinéma, la télévision veulent du drame garanti sans tromperie, des taches de sang et de sperme réelles dans les draps de l'histoire. Je radote que la fiction me permet d'aller plus loin que le biographique. Je n'oppose d'ailleurs pas les gens, je suis lecteur admiratif d'écrivains qui parlent d'eau ou qui savent avec brio s'inspirer d'autrui. Mais j'aime tout autant ceux qui forgent de toutes pièces leur univers. Melville a navigué, mais n'a pas connu Aqab, ni la baleine blanche. On me toise avec compassion. On pensait que j'avais vécu de grandes choses. On m'imaginait dépositaire de confessions. Les lecteurs se consolent en se disant que je n'avoue pas tout. Et de guerre lasse, je finis par me réfugier dans le doute. « C'est vrai ?» me demande-t-on. Alors je me contente d'un sourire. Et enfin, les lecteurs frissonnent de connivence complice. Ils voient l'homme qui a vu l'ours. Ils ont eu peur que l'homme ait inventé la bête de toute pièce. Ils ont le supplément qu'il réclamait. Pourtant, je n'écris que sur une seule chose, toi. De texte en texte, de livre en livre, je te cherche. C'est la vérité. Je vais te faire un aveu. Je retrouve parfois dans mes textes des emprunts à d'autres auteurs. Je parle d'ici d'emprunts involontaires, pas de citations que je me serais amusé à glisser au cœur de mes propres paragraphes. Ce jeu-là, je le pratique, souvent. Pour éprouver le plaisir de voir comment la musique étrangère de notre auteur modifie ou contamine la façon que j'ai de construire des textes. Je cite aussi pour rendre hommage, pour remercier une phrase qui m'a éclairé, qui m'a offert l'exaltation de sa lecture. Ce dont je veux parler serait une sorte de plagiat par négligence ou par ignorance. Je pense sincèrement avoir eu une idée et je découvre plus tard qu'elle provenait d'ailleurs. Parfois, mes propres phrases me sont étrangères. Mon premier roman, L'effacement du monde, est tout entier centré sur une question : comment le langage nous lie à autrui ? Dans le premier tiers, il y a ce passage. Son corps barrait le lit, montagne immobile, à peine trahi par le mouvement d'un souffle lent. En quittant la chambre sombre, j'ai allumé la lumière du couloir et je me suis retourné. Je n'ai pas reconnu Jeanne. La pénombre vibrante, l'abandon de son sommeil et le jeu croisé des pans de noirceur transformaient son visage, creusaient des reliefs inattendus, gommaient certaines lignes que je croyais savoir par cœur. Une vague familiarité affleurait à la surface de cette tête étrangère, surnageant à l'extrémité de la masse confuse de la couette. J'aurais pu croiser ce visage-là dans la rue sans le remarquer, le saluer dans l'escalier comme on salue poliment un voisin dont on ne sait rien. J'ai failli revenir en arrière, allumer l'halogène, secouer cette femme qui avait passé la nuit dans mon lit, tassée à l'autre extrémité du matelas. Mais je me suis arraché à cette contemplation effrayante. Les ombres, ai-je pensé. Les ombres me jouent des tours. Dans le mythe de Sisyphe, Camus écrit « Voici l'étrangeté, s'apercevoir que le monde est épais, entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible, avec quelle intensité la nature, un paysage, peut nous nier. Au fond de toute beauté gît quelque chose d'inhumain, et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même, ils perdent le sens illusoire dont nous y revêtions, désormais plus lointain qu'un paradis perdu. » L'hostilité primitive du monde, à travers les millénaires, remonte vers nous. Pour une seconde, nous ne le comprenons plus. Ces décors, masqués par l'habitude, redeviennent ce qu'ils sont. Ils s'éloignent de nous. De même qu'il y avait des jours où, sous le visage familier d'une femme, on retrouve comme une étrangère celle que l'on avait aimée. Il y a des mois ou des années. Peut-être allons-nous désirer même ce qui nous rend soudain si seuls. J'ai lu le mythe de Sisyphe lorsque j'avais 15 ou 16 ans. L'étranger m'avait à ce point bouleversé que je voulais lire tout Camus, la chute, la peste, le théâtre, mais aussi cet essai qui traitait d'un sujet me préoccupant fort à l'adolescence, le suicide. J'ai lu ce livre sans le comprendre vraiment. Je pensais l'avoir totalement oublié. En 2007, l'université de Nicosie m'a invité à venir parler de mon rapport au texte d'Albert Camus. J'ai relu Sisyphe pour l'occasion. J'ai été saisi de retrouver, presque mot pour mot, un passage que je croyais avoir inventé. Le narrateur de mon premier roman perd le langage, ou plutôt il perd ce qui, dans le langage, permet d'entrer en communication avec autrui. Il se trouve affecté d'une maladie étrange. Il parle une langue que personne n'entend, et il ne comprend plus un mot de ce qu'on lui dit ou de ce qui est écrit. Il devient étranger aux autres, exclu de la langue commune. J'avais à l'époque pensé à bien des références, mais pas à celle de Camus. Si la grande majorité des lecteurs a vu dans ce livre une variation poétique et littéraire sur la maladie, de type Alzheimer, ce livre-là a parfois été lu comme un roman fantastique, la classique histoire de l'homme qui sait la vérité, projetée dans un monde qui est devenu totalement étranger et hostile. Lorsque je l'écrivais, j'étais nourri de mes lectures d'adolescents, en particulier des romans de l'écrivain de science-fiction Clifford D. Simak, dans lesquels le contact avec une civilisation extraterrestre produit de grandes frustrations et de grandes déceptions. Dans ces livres, que je n'ai jamais relus depuis, me fascinait l'idée qu'un peuple arrivé de l'espace entrait en contact avec l'humanité et qu'il était tout simplement impossible de se comprendre. L'extraterrestre représentait l'altérité absolue. Souvent, les soucoupes volantes repartaient dans le ciel et rien, en définitive, n'avait pu se produire. Le même mécanisme est à l'œuvre dans le roman Stalker, des frères Arkady et Boris Trugatsky, dont Andrei Tarkovsky a tiré un film très personnel, plus une variation qu'une adaptation. Des aliens sont venus, ont laissé des objets derrière eux dans un endroit clos, maintenant nommé la zone, et les hommes ne comprendront jamais ce que les voyageurs de l'espace étaient ou voulaient. Le titre original du roman, « Pique-nique au bord du chemin », suggère une hypothèse. Ces objets de notre monde, pour lesquels les hommes entrent dans la zone au péril de leur vie, sont peut-être tout simplement les restes d'un pique-nique, des papiers gras, canettes vides et emballages de chips interstellaires. Je te raconte ces histoires parce que je suis constitué de tous les livres que j'ai lus. Je suis devenu écrivain parce qu'adolescent, j'étais un grand lecteur de romans de science-fiction et de romans fantastiques. Autrui, l'étranger, l'altérité, la communication, le malentendu et son étrangeté, le non-dit sont des thèmes très fréquents dans cette littérature. Parfois, l'étranger, autrui, ceux que nous croyons connaître, sont en réalité un extraterrestre, né dans une cosse géante. Peut-être toi, l'étranger, es-tu là un éclaireur pour préparer l'invasion. Dans mon second roman, Chambre avec gisant, un homme s'allonge dans un lit et n'en bouge plus. Il ne répond pas plus aux questions de son épouse qu'à celles de ses enfants. Cet homme, responsable, commun, familier, aimé, devient par son acte un parfait inconnu. C'est encore plus fascinant lorsque des proches, brusquement, deviennent autres. On dit qu'ils ont changé. En fait, on devrait plutôt dire qu'on n'a jamais su les connaître, qu'ils étaient peut-être étrangers depuis le début, que l'on a été aveuglé par l'illusion de la familiarité. Fait divers. Tous les voisins interrogés par les journalistes n'en reviennent pas. Un monsieur sans histoire, une dame si polie. Je ne crois pas plus à leur étonnement qu'à leur existence, ou à celle des journalistes qui les ont interviewés. Quand j'avais 15 ou 16 ans, j'ai commencé à écrire un impossible roman. À plusieurs reprises, je l'ai abandonné, je me suis heurté à lui. Presque, je me suis blessé en l'écrivant. Sans doute, je manquais de persévérance pour l'achever. De persévérance et de maturité ou de modestie. Ce roman racontait l'errance en Europe d'un narrateur se demandant s'il aurait le courage d'être père. J'ai commencé à l'écrire à une période de ma vie où je n'avais jamais voyagé nulle part, mes parents passant leur été dans la maison de campagne, au beau milieu de la forêt des Landes. La ressemblance entre ce texte et mon dernier roman, Le démon avance toujours en ligne droite, s'arrête là. Ce texte de jeunesse, dont je m'aperçois que je n'ai jamais parlé en public, avait comme toile de fond l'arrivée d'un cataclysme produit par les ordinateurs. Je n'imaginais pas un soulèvement des machines, comme la science-fiction nous en prédit depuis 30 ans, ni l'hostilité d'une intelligence artificielle à l'égard de ses créateurs. Je voyais plutôt la stupidité mécanique d'un système de défense qui se mettait en branle sans que l'homme ne puisse en enrayer le contenu. J'avais vu peu avant le docteur Follamour. J'étais marqué par le final où la folie d'un seul homme entraîne une riposte mécanique qui déclenche la fin du monde. Game over généralisé. Ce que je retiens de mes laborieuses tentatives romanesques est la théorie qui sous-tendait ce roman. Une théorie simple. Autrui restera à jamais partiellement inaccessible parce qu'autrui ne vit pas dans le même monde que nous. Ce roman aurait dû s'appeler Umwelt. J'ai jalousement conservé le titre. Je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit parce que j'imaginais un jour le reprendre et parvenir à l'écrire. J'ai croisé les doigts pour que personne ne s'intéresse à ce terme jusqu'en 2004, où la chorégraphe Maggie Marin s'en est servie comme titre de son nouveau spectacle. Laisse-moi t'expliquer. Développer la charnière entre le 19e et le 20e siècle par deux biologistes, Jacob von Uxhull et Thomas Seebock, l'Umwelt est un mot allemand souvent mal traduit par le terme d'environnement, voire d'environnement sensoriel. Il est parfois mieux rendu par l'expression « monde propre ». Pour résumer grossièrement le concept, le monde diffère en fonction des espèces qu'il abrite. Une tique a beau partager notre espace, elle ne vit pas dans le même monde que nous. Elle est aveugle, sourde, mais pourtant se déplace en flairant l'acide butyrique produit par nos glandes sudoripares. Chaque espèce perçoit le monde de manière sensorielle. La chauve-souris qui frôle nos cheveux les soirs d'été vit sur une autre planète. On sait qu'elle dispose d'un sonar et que son cerveau reconstitue une image du monde en analysant l'écho des ultrasons qu'elle émet. Âgé de 16 ans, vois-tu, j'avais élargi la théorie, me demandant si, au fond, chacun de nous ne vit pas dans son monde propre. Un Umwelt déterminé par les sens. Il suffit d'avoir eu un grand-oncle sourd comme un pot pour comprendre que cet homme-là n'est pas tout à fait habitant du même monde que nous. Et au-delà des sens, déterminé par la manière dont l'esprit saisit ou non ce qui l'entoure. Je me posais d'éternelles questions sur la vérité de ce que je percevais. Par exemple, je me demandais si je voyais bien les mêmes couleurs que tout le monde. Si l'on m'avait enseigné que la couleur du ciel se nomme bleu, comment pouvais-je être certain que ce que je nommais bleu n'était pas du rouge en vérité? Adolescent, et j'espère bien ne pas avoir été le seul, j'avais une capacité infinie à soulever des questions angoissantes et à tenter de théoriser ma singularité. J'avoue que j'aimais bien avoir un monde pour moi tout seul, un monde qui avait un mal fou à communiquer avec autrui, qui ne parvenait pas à m'intéresser aux soucis des adultes. Je me sentais étranger et bâtissais en permanence des justifications théoriques à cette étrangeté. Et puis cette histoire d'Umwelt permettait de coller une étiquette, une bonne fois pour toutes, sur mes angoisses. Mes parents étaient des aliens, mon père vivait sur sa planète, ma mère sur la sienne, et si parfois nos mondes se frôlaient, ils ne coïncidaient absolument pas. Cela expliquait tant d'incompréhension, de lassitude, de crise et d'échec de la moindre tentative de communication. Sans doute, voyant ou entendant la même chose que moi, l'information leur apparaissait différente, vue ou entendue, depuis le fin fond de leur monde insolite. L'Umwelt était à la fois une belle théorie de l'incommunicabilité et un moyen orgueilleux de me sentir à part. Toi qui m'écoutes, tu es une bête étrangère vivant dans un monde dont je ne connaîtrai jamais la forme, la couleur, les sonorités, les odeurs et les sensations. Quand on me demande ce que j'écris, j'ai toujours un peu de peine à expliquer. D'autant plus que la question est souvent posée par politesse et qu'elle réclame une réponse courte. Voyant mon embarras, on me lance parfois quelques perches. Des polars ? Des romans historiques ? Non. J'écris de la littérature, c'est du moins mon ambition. Que dire ? J'écris des romans. Je ne me sens pas particulièrement romancier, même si je suis très attaché aux romans. Faut-il parler de littérature générale ? De littérature blanche ? Ce terme, bien qu'il s'oppose à la littérature noire, me fait surtout penser à une sorte de label ethnique totalement inapproprié. Quand je dis que j'écris de la littérature jeunesse, les questions s'arrêtent, comme s'il s'agissait d'un genre en soi, le drame social, l'heroic fantasy, les canards qui parlent et oui, se valent. Pareil pour le théâtre, les questions s'arrêtent. J'écris du théâtre, ciel mon mari, s'exclame la dame en voyant arriver Godot. Dans la ville où j'habite, je fréquente parfois une bouquinerie où les journalistes revendent leurs services de presse neuf. La personne qui travaille là-bas classe les romans en deux catégories. Il y a le bac roman et le bac intello. Imagine ma vexation le jour où j'ai retrouvé l'un de mes livres dédicacé Orient roman, alors que je lui espérais au moins le destin du bac intello. Une fois j'ai vaguement bredouillé être auteur de littérature, une fois que j'ai vaguement bredouillé être auteur de littérature, je dois parfois expliquer le sujet de mes livres. Et invariablement, je dis qu'il s'agit d'histoires sur les rapports compliqués que les individus entretiennent entre eux. Revoilà l'étranger, qu'il soit l'amant, le père, la mère, l'homme vu dans le bus, autrui et le mystère autour duquel je tourne. Ce qui m'est étranger, autrui, son monde propre, ce que je sais de lui, là où je me trompe, ce que j'imagine, et la manière dont le langage ou le silence nous lie à l'étranger. En 2008, je co-dirige avec Nicole Caligaris un ouvrage de correspondance d'écrivains. Nous demandons à 26 auteurs de se poser deux à deux la question des conséquences de la politique d'immigration menée en France. C'est une époque où les quotas chiffrés d'expulsion brisent des vies, en plus de briser des familles. À plusieurs reprises, des clandestins voulant fuir la police sautent des fenêtres et se tuent en heurtant le sol. Mon correspondant est l'écrivain nimien Nimrod. L'écrivain tchadien Nimrod, pardon. Dans le texte que je lui adresse, j'écris ceci. Ma famille reste spectaculairement soudée. Vivre à Bordeaux est un exil. Ma mère, fille unique, mon père, un seul frère, moi, fils unique. Alors on se resserre. Les exceptions sont prodigieuses. Le frère de mon père, devenu immigré, fuyant le village natal pour aller en Australie, où il aura 5 enfants. Un lointain inconcevable. Une planète entière à traverser pour rompre l'héritage. Des sables rouges, des crocodiles, des kangourous et une langue étrangère. Cet oncle, par son absence, m'a offert l'imaginaire d'un ailleurs. Peu d'amis. Mes parents passent leurs dimanches en famille, avec leurs propres parents. Peu d'occasions de voir de nouveaux visages. C'est le cercle familial. Un cercle fermé, hermétique, comme dans ces westerns où les caravanes font cercle pour se protéger des attaques d'Indiens. À l'école, je me rends chaque jour, il y a des enfants noirs et des enfants arabes, assez peu. Il faut aller vers les Capucins ou la place Saint-Michel pour que se colorent les rues. Mes parents travaillent, mon grand-père travaille, ma grand-mère m'élève. Elle m'explique la vie, me dit d'être prudent, très. Le monde est hostile. La peur de l'autre, ma grand-mère en tremble. L'Indien, prêt à entrer dans le cercle pour y semer la violence et la terreur. Enfant, j'ai été élevé dans cette peur. L'autre est dangereux, l'autre est menaçant. L'autre kidnappe les petits garçons. Il a des bonbons dans ses poches. Il les appelle, il les allèche, les séduit. Et à peine les petits garçons ont-ils fait un pas vers lui, il les enlève pour les torturer et les tuer. L'autre est un tentateur. Il rôde en voiture à la proximité des écoles et des jardins publics. Il est gentil, en surface. Il est bien habillé. On m'a raconté, on m'a prévenu. C'est l'autre qui fait ça, qui est capable de faire souffrir un enfant pour son plaisir. En l'autre réside toute la crasse dont l'homme est capable. En l'autre se sont sédimentés le meurtre, la folie, la perversion, l'outrage, le crime, la violence, la boue, l'infamie. Du viol seulement, on ne parle pas à l'enfant que je suis. Sans doute croit-on bon de m'épargner ces détails-là. On me laisse avec des images de l'autre qui tranche la gorge, tue lentement, en prenant plaisir à contempler la douleur. On m'évite de penser à une queue qui force mon anus. L'autre, on ne le connaît jamais. Il peut se révéler à chaque instant, comme en témoignent les voisins interrogés au journal télévisé. On le croisait dans la rue, au supermarché. On n'aurait jamais cru ça de sa part, quelqu'un de si poli, de tellement propre sur lui. Sans méfier de l'autre. Il fera tout pour dissimuler sa noirceur. Et si l'autre est étranger, m'enseigne-t-on, c'est pire. Il est doublement autre, altérité amplifiée, autre puissance autre. Par exemple, c'est ma grand-mère qui me met en garde, l'autre peut être noir ou arabe. Ma grand-mère roule des yeux, pour peu elle se signerait. Elle serre plus étroitement son sac lorsqu'elle croise ce genre d'autre dans la rue. Et Dieu sait que dans le quartier des Capucins, on en croise des autres. On raconte de vieilles histoires. J'entends pour la première fois le mot cannibale. C'est ancien, c'est loin de chez nous, mais sait-on jamais, dit-elle, on n'est jamais assez prudent. Elle consolide sa pensée de béquille, chasse le naturel, fait-elle, il revient au galop. Ces autres n'ont pas la même couleur, pas les mêmes mœurs, pas le même dieu, pas le même passé, pas le même pays d'origine, pas la même langue, pas le même sang. Ça fait beaucoup, non? Déjà qu'un autre bien de chez nous est une menace potentielle. Alors, les autres autres, pensez donc. Ma grand-mère souffle. On n'est jamais assez prudent, répète-t-elle. Voilà la quintessence de sa pensée, la prudence. Fuir l'altérité comme la peste, s'en tenir à un racisme ordinaire, à une prudence qui contamine tous les domaines. Ne pas manger un plat inconnu, ne pas parler à un inconnu, ne pas risquer de sortir de ses habitudes. Le cercle, encore, cocon protecteur, à l'abri des humeurs de la foule. Un cercle endormi qui permet de traverser les horreurs dans un indifférent confort. Le cercle dont le tracé premier s'est perdu, mais qui fut patiemment entretenu de génération en génération, préservant du contact avec autrui comme de l'invasion des nouveautés. J'intercale ici le regard paniqué de mon arrière-grand-mère à qui l'on offre une banane. « Pour les singes » s'offusque-t-elle. « Prudence, » dit ma grand-mère, femme gentille et douce. « Prudence. » Plusieurs fois, à mesure que je grandis, elle éclate de rire. Elle me demande si j'ai une fiancée à l'école, j'ai 6 ou 7 ans, et elle rit. Je ne sais trop ce qui l'amuse tant. Elle finit par me faire partager le motif de sa joie. « C'est, dit-elle, que j'ai imaginé qu'un jour tu nous ramènes une négresse. » Et le rire repart, un vrai rire joyeux, un rire signifiant à quel point cette pensée est absurde, une négresse à la maison. C'est aussi absurde pour elle qu'un mariage sur la lune. Le rire naïf de ma grand-mère, je l'entends encore. Ce rire signifiait que les choses ne bougeraient pas, que l'on continuerait dans la famille à se carapacer contre l'autre, contre l'étranger, qu'elle pouvait compter sur moi, sur ma soumission et ma complicité. Le livre sera publié aux éditions Vendailleur après avoir été refusé par de nombreuses maisons. Nous avons beau être 26, cela ne suffit pas à lever le préjugé sur l'engagement en littérature. Peu importe. Si écrire est un engagement, publier est parfois un combat. Au-delà de la description d'un racisme ordinaire, Au-delà de la description d'un racisme ordinaire que j'avais souhaité faire, je retrouve dans cet extrait toute l'extraordinaire complexité du rapport à autrui. Dans certains milieux, la peur de l'étranger commence dès qu'il s'agit de quitter le cercle familial. On ne comprend pas ces gens-là. On ne sait pas comment ils vivent. On ne sait pas comment ils voient les choses. C'est en terminale, en cours de philosophie, lorsque le professeur évoque Descartes, que je peux mettre un nom sur une pensée qui m'a taraudé toute mon enfance. Souvent, je me suis demandé si autrui existait réellement. Je m'imaginais fou, inventant mon monde, ou bien dans le coma, construisant de toutes pièces les décors, les paroles, les visages, les personnages de mon petit théâtre intérieur. Je découvre alors non seulement que cette idée porte un nom, celui de solipsisme, et qu'elle a été théorisée des siècles avant que j'en éprouve l'angoisse. Encore une fois, une chose intime, dont je n'aurais jamais osé parler, ne m'appartient qu'à moitié. C'est agaçant, vois-tu, d'être dépossédé brusquement de sa propre névrose. Après coup, si je veux être honnête, je pense que la sensation de solipsisme m'a été offerte par mes lectures de science-fiction. De nombreuses histoires jouent sur l'illusion du réel. J'ai aussi beaucoup lu Philippe K. Dick, même si dans ses nouvelles et romans, souvent le narrateur découvre que le monde et autrui existent, mais ne sont pas ceux qu'ils semblent être au premier abord. Il faut que je t'avoue autre chose. Comme je ne suis pas sûr que tu sois là, je peux me permettre de tout avouer. J'ai aussi dû combattre l'idée qu'un étranger nidifiait en moi. J'ai grandi en me demandant à quel point je me trahirais. Je ne voulais pas devenir un homme lointain, coupé du monde, avachi devant son téléviseur. Je ne voulais pas d'une femme qui pleurerait, qui dirait partout du mal de moi, qu'il roulerait de grands yeux dès que ma main s'approcherait du col d'une bouteille. Je ne voyais autour de moi que des femmes malheureuses à cause d'hommes distants. Je regardais dans mes albums les rares photos de jeunesse de mes parents et je cherchais à savoir quand ça se produisait. Quand l'enfant infini s'éboulait tout entier dans l'adulte résigné. Je cherchais sur les visages un indice, un signe, et je ne trouvais rien. Je voyais les rondeurs de l'enfance fondre dans la beauté de l'adolescence. Je voyais des sourires, une robe de mariée, sans doute arrivée trop vite, des sourires encore. Les photographies n'exprimaient rien de l'abandon et de la défaite. Les photographies créaient des fictions, des faux-semblants. Tout le monde, tout le temps, posait et souriait, même sur les plus récentes. Jamais un pleur ne s'était laissé fixer sur une pellicule. Il m'a fallu du temps pour comprendre que l'on pouvait grandir sans se trahir. En un sens, je ne suis jamais devenu adulte, parce que je ne suis jamais devenu l'adulte auquel les malédictions familiales me vouaient. Malédiction. J'ai grandi en tentant de faire taire les confidences et les gémissements profondément fichés dans ma chair et mes os et mes organes et mes cauchemars et mes doutes. On m'a prédit que je deviendrais égoïste comme sont égoïstes tous les hommes. On m'a prédit que je ferais souffrir une femme plus tard, puisque les hommes font souffrir les femmes, et que l'on avait déjà pris de l'avance en faisant souffrir ma mère. On m'a prédit que je ferais souffrir une femme plus tard, puisque les hommes font souffrir les femmes, et que j'avais déjà pris de l'avance en faisant souffrir ma mère déchirée lors de l'accouchement. On m'a prédit que je boirais puisque l'alcool est une violence faite aux femmes. Le vin fait perdre la raison aux hommes. Le vin est plus enjôleur qu'une femme. Le vin pousse les hommes à révéler leur véritable nature noire et malsaine, coléreuse et irresponsable. On m'a prédit que je risquais de finir à la rue, puisque je travaillais mal à l'école, puisque je me révoltais parfois contre les décisions autoritaires de ma mère, puisque le soir avec des amis, je sortais avec des amis et que je ne trouverais pas de métier stable. Ne me dis pas que faire de la radio est un métier, que j'étais le portrait de mon père et que mon père, justement, avait fini par perdre son emploi, avait fini par abandonner sa femme et son fils. On m'a prédit que j'héritais de tous les travers de mon père. Dès ma plus petite enfance, dès que j'avais une mauvaise appréciation sur un bulletin de notes, dès que je relevais la tête. On m'a prédit qu'une mauvaise graine pousse mal, produit des épines, ne donne que de la mauvaise herbe, du chien d'or, des chardons, des orties, des ronces. On m'a prédit que j'avais ça en moi, sans définir de quoi il était question. Il suffisait de dire ça. Il suffisait à ma mère de prononcer ça, avec tant de mépris, de colère et de haine, que j'imaginais le reste. Tout ce que ça impliquait. Tout ce que ça comportait. Ça était une malédiction, une bombe cachée au creux de mon cerveau ou tout au fond de mon cœur. Ça était le maillon de mon génome. Ça était dans mes glandes comme dans mes organes. Ça était la substance même de mon corps. Et ça révélerait un jour sa vraie nature. Ça se déchaînerait. Ça me pousserait à devenir mauvais et à faire souffrir les autres. Un jour, j'ai vu le schéma de l'ADN, la double hélice. Je savais que ça se cachait là-dedans. Autant s'extraire le cœur ou le cerveau pour y échapper. On m'a prédit que je tournerais fou, J'écoutais adolescent de la musique de fou, je me comportais comme un fou. On m'a prédit que je deviendrais comme le grand-oncle Robert, que je finirais prostré, l'œil éteint et la bouche masquée par la moustache basse, à ne parler qu'à moi-même pour me raconter encore une fois la guerre, les avions, le char allemand qui avait roulé sur le ventre de son camarade, les cris, la peur. On m'a prédit l'avenir sombre que je m'étais pressé de bâtir de mes propres mains, donnant raison à ma mère et à ma grand-mère. On m'a dit que je serais fou, parce que les hommes ne cherchent jamais à échapper à la folie. Le visage d'autrui est un miroir déformant, le reflet mouvant à la surface d'un étang que les eaux vertes et grasses déforment sans cesse, modèle et remodèle au gré des événements. Je n'ai jamais su ce que je rencontrerai si j'osais tendre la main vers ce visage. Je n'ai jamais su si je frôlerai une chair chaude ou si je m'enfoncerai dans ses vases, si elle n'emprisonnerait pas ma main pour m'attirer en elle et me noyer à tout jamais. Je suis devenu écrivain, c'est un fait. On me parle parfois de mon métier, surtout ceux qui ne lisent pas mes livres. On me dit que je sais raconter une vie, je souris. La conversation reste en surface. Il faudrait pourtant que j'explique que non, je ne sais pas dire une vie. Ce qu'il faut de détails, de rêves, de souffrances, d'imagination, d'empathie pour entrer dans une vie. C'est le pari que tentent de relever les biographes. Ils accumulent les faits, les actes, les déplacements, les adresses et les témoignages. Ils tentent de faire croire qu'ils savent une vie autre que la leur. Mais que connaissent-ils des emportements de l'intérieur, de ce qui se joue dans les pensées les plus obscures d'une personne étrangère? Il est si difficile déjà de voir en soi, alors comment prétendre déployer quelqu'un d'autre, le déplier en pleine lumière, le lisser sous le talon d'un livre? Il faudrait employer une vie entière pour rendre compte de son enquête. Notre propre vie fait obstacle à la compréhension d'autrui. Dire ne serait-ce que le bonheur d'une vie semble à jamais hors de portée. On n'écrit pas la vérité, on écrit à partir de soi. Le point de vue est à jamais verrouillé, comme ces lourdes jumelles fixées sur les socles en haut des panoramas que une action d'en glissant une pièce. Elles ne permettent jamais que d'agrandir la vue d'une perspective déjà établie. Parfois, dans un élan don chicotesque, je tente d'expliquer qu'écrire se situe au niveau du langage plus qu'à celui de l'histoire. J'écris des mots pour les nettoyer de l'habitude, pour les extraire du quelconque, pour les mettre dans la vitrine de mon texte, comme un tableau au mur du musée, les placer dans l'étrange monde qu'est un texte littéraire. J'aimerais les faire apparaître comme le magicien extrait un lapin de son chapeau et que les spectateurs ont pourtant examiné la minute précédente. J'aimerais faire apparaître des mots dans un grand cri de stupeur. C'est la limite du langage. On use les mots, on les emploie à tort et à travers, on ne prend pas soin d'eux, on ne les laisse pas en jachère. On les dit et les redit, si bien qu'à la fin ils sont élimés. La lumière transperce la trame des mots. J'ai besoin qu'ils vibrent, qu'ils se chargent de force et de sens et d'énergie et de violence et de siècles et de souffrances. Écrivant le texte de ce qui n'est pas vraiment une conférence, j'achète et lis un petit ouvrage de Frédéric Boyer intitulé « Quelle terreur en nous ne veut pas finir », publié en mars dernier chez POL, et je lis une belle citation de Wittgenstein. « Un être humain peut être une complète énigme pour un autre. » Et Boyer continue. Mais c'est bien sur ce sentiment d'étrangeté de l'un pour l'autre qu'il faut bâtir une relation, un langage, une appartenance, une attribution, un fil commun, un échange possible. Et plus loin, il parle d'énigmes que chacun est pour l'autre comme pour lui-même. Je partage une hypothèse avec toi. J'écris pour tenter de comprendre autrui, ou plutôt pour tenter de cerner combien autrui est inconnaissable, parce qu'il serait prétentieux de vouloir trouver des solutions. J'écris pour tenter de me familiariser avec autrui. J'écris pour me familiariser avec toi, pour te retrouver, puisque je ne t'ai pas pris au sérieux pendant longtemps. J'écris parce que fondamentalement, je ne sais rien d'autrui. Parce que paradoxalement, je suis comme le narrateur d'incidents de personne. Je déborde des récits et des histoires d'autrui. J'ai le plus petit dénominateur commun du langage qui me sert à m'interroger encore et encore sur le mystère de l'étranger. le monde fourmille d'étranges. On me dit souvent que j'ai de l'empathie pour mes personnages. Qu'il soit un homme se sentant frappé par une malédiction, le démon avance toujours en ligne droite, une adolescente découvrant que les choses qu'elle a admises depuis l'enfance ne sont pas si simples, muettes, un vieillard guettant la fin du monde depuis la fenêtre de son bureau, les géocroiseurs. Je ne sais pas si j'ai vraiment de l'empathie. Je me glisse à l'intérieur d'autrui pour y faire place nette et l'emplir tout entier de mes questions et de mes angoisses. Surtout, il serait illusoire de prêter des pouvoirs à l'écriture ou de glorifier la position de l'écrivain, de dire des choses pompeuses. Écrire ne m'a jamais permis de comprendre autrui. Plutôt de mettre en évidence l'épaisseur d'un mystère, de mieux exprimer ce qui paraît indéchiffrable. Après tout, le moyen de connaissance de l'autre passe par le langage. J'entends parfois des collègues écrivains dire des trucs qui me font rougir de honte ou de colère jusqu'aux oreilles. Pardon. Je me demande s'ils existent vraiment ou s'ils sont que les épouvantails dont mon cerveau a besoin. Tout m'est étranger, alors tout m'est histoire. Moins je comprends, plus j'écris. J'y mets une obstination têtue, une fierté d'ignare. Je ne sais pas pourquoi les gens se détestent ou s'aiment, alors j'écris sur la haine et l'amour. Je ne sais pas pourquoi les gens se parlent ou se taisent, alors j'écris sur la parole ou le silence. J'écris pour poser des cailloux blancs sur le bord du chemin, dans l'illusoire espoir de ne pas me perdre dans la forêt. J'écris parce que les actes, les emportements, les colères et les désirs des autres m'apparaissent secrets et opaques. J'écris pour dire ce que je sais de toi, parce qu'à tout jamais, une partie de moi est cet enfant qui joue avec des fusées à quatre pattes dans le salon, pendant que tu vis tout là-haut, dans ton umwelt à jamais impénétrable, et que tombent jusqu'au sol des mots comme des météorites que je m'empresse de récolter, afin de tenter maladroitement de bâtir mon monde propre. Merci.